Chat perché par Richard Keller, chapitre 12. Tous deux commencèrent la semaine fatigués. Ils emballèrent les objets et remplirent des cartons tout le week-end. Leur déménagement aurait lieu d'ici une quinzaine. Ils ne disposaient que des fins de semaine pour s'occuper de l'organisation et du rangement pour le départ. Aucune audition n'étant programmée, ils envisageaient de commencer à faire du rangement dans les dossiers en attente, et notamment celui concernant Mélanie Pralon. Cela faisait presque 8 mois que l'assassin avait mis fin au jour de la vieille dame. Sagol n'aimait pas les affaires non résolues dans le premier mois, le taux de réussite chutant dramatiquement au-delà d'un trimestre. Dans le cas présent, les chances de résoudre l'énigme s'amenuisaient de jour en jour. Ils firent le ménage dans leur placard. Les ordinateurs furent nettoyés des photos personnelles. Le bureau redevenait anonyme. Habitués à travailler ensemble depuis plusieurs années, un brin de nostalgie se lisait dans leurs regards. Ils ne se parlaient pas beaucoup. Ils sentaient que le mot fin ne tarderait pas à se poser sur leur histoire commune. Leur départ simultané était un point positif. C'était mieux ainsi. Ils n'auraient pas à faire de comparaison avec un nouveau collègue, chacun partant dans une orientation différente. Un appel téléphonique leur redonna de l'espoir. L'inspecteur principal Boucher appela Sagol pour lui communiquer une information digne d'intérêt. Dans la nuit du samedi 20 au dimanche 21 septembre, la brigade de nuit arrêta un individu qui capturait des chats pour les tuer. Après une nuit de garde à vue, l'homme fut présenté au parquet et mis en examen pour cruauté envers les animaux. Relâché, il serait poursuivi et comparaîtrait d'ici quelques semaines pour répondre de ses actes. La société protectrice des animaux décida de déposer une plainte et de se constituer partie civile. Le suspect se nommait Grégory Drieux, il avait 30 ans. Sagol demanda à son ami Jean-Pierre Boucher s'il pouvait de nouveau appréhender le suspect et envisager dans la foulée de perquisitionner son logement. Ce dernier percuta immédiatement. Il était en phase avec Sagol. Il fallait intervenir le plus vite possible. Il assura son ami Léo de sa diligence et proposa aux deux gendarmes de se joindre à eux pour la suite des opérations. Ils ne se firent pas prier. Dans une commune résidentielle de la banlieue grenobloise, 6 hommes se présentèrent au petit matin devant une villa. Le soleil n'avait pas encore montré son nez sur le versant de la montagne, bien qu'il fasse jour. La vallée s'éveillait dans l'ombre. Sur la boîte aux lettres, un nom apparaissait. Grégory Drieux. Le portail était entrouvert et les volets clos. Le jardinet non entretenu et les herbes folles poussant entre les joints des pavés de l'allée confirmaient le désintérêt de l'occupant des lieux pour la décoration extérieure. Les intervenants se déployèrent l'arme au poing. 2 policiers se dirigèrent vers l'arrière de la maison. Boucher et un autre agent frappèrent à la porte d'entrée. Sagol et Gilles restèrent en retrait, vigilants et prêts à intervenir en cas de besoin. Malgré les sommations d'ouverture, il n'y eut aucune réaction visible dans l'habitation. L'homme accompagnant Boucher cassa un carreau, passa sa main de l'autre côté pendant que son supérieur le couvrait. 10 secondes interminables s'écoulèrent et le verrou céda. Lui s'ouvrit enfin. Ils pénétrèrent à l'intérieur. L'inspecteur principal passa le hall d'entrée. Son collègue protégea la montée d'escalier au cas où le suspect serait à l'étage. Les gendarmes assurèrent la protection de ce côté-là. Le rez-de-chaussée rapidement vérifié, Boucher grimpa à l'étage. Il y avait 2 chambres, l'une contenant juste un matelas posé à même le sol, l'autre meublée d'un lit bas avec tiroir et d'une armoire dont la literie était défaite. Il s'approcha des draps. Ils étaient froids. Personne n'avait donc couché ici cette nuit-là. D'autres draps et 2 couvertures remplissaient le tiroir du lit. La salle de bain au fond du couloir ne révéla rien de sensationnel. L'occupant des lieux y avait laissé son nécessaire de toilette, son rasoir et 2 brosses à dents avec un tube de dentifrice. Si l'oiseau s'est envolé, ce n'était pas prévu, se dit-il. Sinon, il aurait emporté ses affaires de toilette. Il ouvrit les WC, ainsi que 2 placards. Ne trouvant rien, il redescendit rejoindre son subordonné posté au bas de l'escalier. Dessous se trouvait une ouverture donnant accès au garage. Les deux hommes procédèrent de la même manière. Boucher ouvrit largement le battant. Le local était plongé dans l'obscurité. Habitué à ce type de situation, il trouva l'interrupteur et alluma. Le garage était bien rangé, il n'y avait personne. Mais il appela Sagol, car il décela quelque chose qui allait probablement faire plaisir à son ami. Pendant que deux policiers montaient la garde à l'extérieur de la villa, Sagol, Gilles, Boucher et un collègue à lui inspectaient le garage. Sagol ne mit pas longtemps à comprendre la teneur des propos de son ami. Il trouva tout un attirail sur les étagères. Les différents flacons alignés et étiquetés ne laissaient planer aucun doute sur leur usage. Des produits utilisés par les taxidermistes étaient rangés là, devant lui. Par contre, aucun animal, et surtout pas de chat, ne reposait sur les étagères, ni ailleurs du reste. Boucher fit observer que l'homme avait été appréhendé justement parce qu'il était en train d'oussir un matou. Il devait avoir besoin de renouveler son stock pour une opération funeste à venir. L'inspection du local permit de découvrir des outils servant au dépeçage et au raclage des pots. Tout était rangé méticuleusement. Les enquêteurs mirent les produits et le matériel dans des sacs étanches afin de faire analyser leurs trouvailles. À part le nécessaire du parfait taxidermiste amateur, ils ne découvrirent rien de plus dans le garage. Boucher décida de s'occuper de la partie habitable. Ils commencèrent par passer au peigne fin la cuisine. L'inspection menée avec méticulosité ne révéla rien. Sagol espérait secrètement trouver quelques grains de riz semblables à ceux trouvés sur le lieu des deux crimes. Ils vidèrent les tiroirs, décrochèrent la pendule qui ne fonctionnait plus. Gilles alla même jusqu'à inspecter le réceptacle des piles. Il y en avait deux usagées, rien de caché à l'intérieur. Les placards furent vidés, chaque casserole retournée. Au bout de quelques minutes, une évidence s'imposa à eux. Il n'y avait pas d'indice dans la cuisine. Ils se dirigèrent vers le salon, sans omettre de scruter et d'examiner de près tout ce qui se trouvait dans le hall d'entrée. Il y avait une parka accrochée au porte-manteau, dont les poches ne laissèrent apparaître qu'un paquet de mouchoirs en papier à l'issue de la fouille. Puis, deux tableaux furent décrochés. Il n'y avait rien ni sur le mur, ni derrière l'étoile. Le salon et la salle à manger ne formaient qu'une seule grande pièce. Ils s'occupèrent tout d'abord du salon. Un policier retira les coussins des deux fauteuils de cuir fauve. Il défila housse, rien dessous. Sagol opéra de la même façon avec le canapé. Le résultat fut identique. Boucher se dirigea vers un living en teck. Le meuble, de facture contemporaine, était composé de nombreux tiroirs et de rayonnages avec des livres. Afin d'harmoniser le tout, les étagères supportaient des bibelots et divers vases et récipients de petits volumes. La curiosité naturelle du fin limier qu'il était l'incita à se rapprocher des petits pots disposés sur le rayon de gauche. Dans le premier, il trouva des pièces de monnaie n'ayant plus cours. Il prit une tabatière, souleva le couvercle et appela Sagol. « Léo, viens voir, il est possible que tu sois intéressé. » Sagol prit le pot que lui tendait son ami. En voilà une surprise, je ne m'attendais pas à ça. Le chef voyait Gilles et les autres policiers qui piaffaient de savoir ce que contenait la tabatière. Il la secoua un peu, Gilles fut le plus prompt à réagir, car il connaissait le dossier. Du riz, je crois que nous commençons à collecter quelques preuves. Oui, et ce n'est peut-être pas fini, je vais mettre ces grains à l'abri. Sagol ferma délicatement le pot et l'emballa dans un sachet en plastique. Bien sûr, chacun avait des gants en latex, ce qui permettait de ne pas mélanger les empreintes. Tout un pan de la bibliothèque contenait des livres traitant de la Chine. De nombreux ouvrages concernaient la ville de Xian. Gilles se consacra à l'inspection des différents volumes alignés. Le suspect devait être un homme ordonné, probablement maniaque. Les bouquins se trouvaient rangés par format, les plus grands disposés à plat, toujours par ordre de grandeur. Parmi les ouvrages, il repéra un livre qui traitait de l'artisanat dans l'Empire du Milieu. Il le parcourut, trouva une feuille volante avec des inscriptions et des numéros de pages griffonnés. Il regarda attentivement. Les folios référencés ne devaient pas se trouver dans cet ouvrage de 400 pages. En effet, parmi les feuilles signalées figuraient les pages 235, 753 et 1083. Il lut et mémorisa les deux pages où avait été inséré le feuillet. Le chapitre traitait des rapports entre le travail de l'artisan et la philosophie au fil des siècles. Gilles s'interrogeait. Il serait intéressant d'en savoir un peu plus. Le suspect était-il l'auteur des annotations? Tenace et méthodique, il essaya de repérer les œuvres susceptibles de contenir plus de 1083 pages. Il avait sa petite idée sur la question, mais il trouvait prématuré de l'exposer clairement à ses collègues, au risque de passer lui aussi pour un mystique ou un dérangé. Dans la bibliothèque, exposée en évidence, deux ouvrages traitaient de la taxidermie. Grégory Drieux dévoilait des pôles d'intérêt très variés. Cela aurait pu paraître surprenant, mais certainement pas pour ces professionnels expérimentés, rompus à rencontrer des situations bizarres. Gilles feuilleta les deux gros livres. Il ne trouva pas de feuillet inséré. Ensuite, il examina tous les autres à la recherche de feuilles volantes, d'annotations ou de pages cornées. Il s'aperçut vite que certaines œuvres avaient été consultées à de nombreuses reprises, découvrit des pages froissées, avec parfois des taches sombres ressemblant à du café. L'homme avait des préférences. Les écrits traitant de l'armée enterrée de l'empereur Qin Axian étaient les plus sales, ce qui laissait supposer une lecture assidue. Il prit le temps de scruter avec plus d'attention les livres concernés. À première vue, il ne décela rien. Il lui faudrait plus de temps pour se concentrer et réfléchir à la psychologie du suspect. Sagol découvrit dans les tiroirs du living une boîte métallique ayant contenu des biscuits. Elle servait maintenant pour l'archivage des souches de chéquier ainsi que des reçus de cartes bancaires. Il sortit délicatement le contenu du récipient, regarda les talons de chèque, tous antérieurs à l'année 2000. Les récépissés d'achat par carte furent plus instructifs. Un ticket de caisse agrafé avec l'un d'eux retint son attention. L'acheteur avait réglé l'acquisition de deux livres, Le Monde des Chats, écrit par le professeur Ernest Lapébie, et Les Pensées de Confucius. Les deux ouvrages ne se trouvaient pas rangés dans la bibliothèque. Les achats s'effectuèrent le samedi 1er février à la librairie de la cathédrale. Sagol et Gilles furent surpris par la découverte. La note indiquait 19h08. Le suspect, probable assassin, acheta les livres le soir du meurtre de Mélanie, moins de 2 heures avant sa mort. Il se trouvait à la librairie quelques minutes avant la fermeture, à quelques centaines de mètres du lieu du crime. Policiers et gendarmes trouvèrent d'autres éléments pour étayer leur dossier. Ils saisirent l'album de photos de Grégory Drieux, ainsi qu'un ordinateur portable. Gilles se chargerait de faire parler le disque dur au bureau. Tout ce beau monde se dirigea en ville au bureau de l'inspecteur principal. Deux policiers furent laissés en planque au cas où le locataire des lieux reviendrait. Mais Sagol n'y croyait pas. Son intuition lui disait que si l'homme était parti précipitamment, il ne reviendrait pas se jeter dans la souricière. Boucher offrit le café à tous. Devant le distributeur du commissariat, les hommes commentaient leur action du matin. Gilles était le moins loquace. Il cogitait sur tous ses bouquins traitant de la Chine. Depuis un moment, il était convaincu d'un rapport entre les pensées de Confucius et les annotations sur la feuille volante découvertes à l'intérieur du livre sur l'artisanat dans l'Empire du Milieu. Il compara l'écriture aux notes sur les titres de cartes bancaires. Une évidence s'imposa, l'écriture était identique. Boucher invita Sagol et son adjoint à déjeuner. Ils reprendraient leurs investigations après. Il les emmena dans un restaurant italien de la vieille ville où ils choisirent chacun un plat différent de pâtes, arrosé par un Chianti de derrière les fagots. Gilles, qui conduirait au retour, ne but qu'un verre. Boucher et Sagol firent un sort à la bouteille tressée de raffia. La collation rapidement expédiée, les trois compères se remirent à la tâche. L'album photo réserva aussi une surprise. Ils ne reconnurent personne sur les clichés. L'étonnement vint de la composition du classeur. Il n'y figurait que des jeunes hommes, aucune silhouette féminine ne venait agrémenter les pages. La plupart des garçons prenaient la pose dans le plus simple appareil, ce qui fit lâcher un commentaire à Boucher. Avec ça, nos femmes ne risquent rien, sexuellement parlant. Oui, mais les gens refoulés, c'est encore plus dangereux, Jean-Pierre. Je te l'accorde, Léo, il vaut mieux avoir affaire à un amateur de belles créatures. Et vous, Gilles, qu'en pensez-vous? Pas grand-chose, je crois que notre suspect est sérieusement perturbé. Je vais m'attaquer à son ordinateur. Tous les trois pensaient que l'individu était homosexuel. Boucher venait de sortir le dossier de l'arrestation du week-end. Il précisa que dans sa déposition, Grégory Drieux déclarait être célibataire. Gilles emmenait toujours avec lui sa trousse à outils, comme disait Sagol. Avec les logiciels qu'il utilisait, peu de machines résistaient à sa curiosité professionnelle. Il mit l'appareil sous tension. Le système exigea un mot de passe. Il introduisit un CD-ROM dans le lecteur. L'écran devint bleu durant quelques secondes, puis une petite musique retentit. Ce diable de Gilles avait réussi à ouvrir la session. L'ordinateur dévoila une mine d'or d'informations. Gilles pianota avec dextérité sur le clavier. Il trouva tout d'abord un échantillon représentatif de ce que l'être humain peut faire de plus abject. Pêle-mêle, des photos d'hommes accouplés entre eux ou avec des animaux apparurent. Des enfants aussi étaient exhibés. Ils étaient tous écœurés. Il faudrait ouvrir une enquête sur la provenance de ces images. Gilles reconstitua l'historique des navigations Internet des derniers jours. Comme il pouvait s'y attendre, il découvrit beaucoup de sites gays, et la Chine n'était pas oubliée. L'homme avait visité plusieurs centaines de sites abordant toutes sortes de sujets ayant trait à cet immense pays. Gilles se rendit sur de nombreuses pages fréquentées par le suspect. Aucune ne frappa son regard. Il installa un nouveau logiciel dans la bécane du sale individu, car il souhaitait récupérer les fichiers effacés. En cherchant plus loin, il s'aperçut que l'homme, précautionneux, avait crypté certains dossiers. Gilles, en expert, trouva la faille et en récupéra environ 400, dont la plupart contenaient des images que Sagol qualifia de dégueulasses. D'autres contenaient du texte. Quelques phrases empruntées à de grands auteurs. Le thème récurrent était la vengeance. Gilles trouva les deux phrases de Confucius. Ce n'est pas le but de la promenade qui est important, mais les petits pas qui y mènent. Il reste toujours un peu de parfum à la main qui donne des roses. Un autre fichier avait été créé le lundi 22 septembre. Il contenait la copie d'une recherche d'itinéraire via un site internet. Les limiers se mobilisèrent sur le sujet. L'homme effectua sa demande en excluant les autoroutes et les voies express. Il avait mis des étapes, passant par de tout petits villages. S'il avait souhaité échapper à un contrôle, il ne s'y serait pas pris autrement. Boucher, un homme réactif, rédigea immédiatement un message en direction de tous les services de police et de gendarmerie du territoire, y compris les douanes. Le signalement de Grégory Drieux fut diffusé, ainsi qu'une photo récente. Il ne restait plus qu'à attendre que le gibier se présente aux chasseurs. Pour une meilleure efficacité, la gestion du dossier concernant le fuyard fut confiée au service du chef Sagol. Boucher donna donc en premier les coordonnées de son ami Léo. La fuite du suspect amenait les enquêteurs à supposer qu'il s'était dirigé vers Bordeaux. Était-ce le point de chute ? Ou une étape pour passer en Espagne. Une question tarabustait toujours Gilles. Que représentaient les numéros griffonnés sur la feuille volante trouvée au domicile de Drieux? Il espérait qu'il serait rapidement appréhendé et qu'il donnerait la clé de l'énigme.